Salut et bonne année donc.
Au revoir.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. 101.5 FM. Cette émission est une rediffusion.
Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
Bonsoir à toutes et à tous et joyeux Noël. Bienvenue au Labo des Savoirs, votre rendez-vous avec la science. En ce soir de Noël, une émission spéciale déconseillée aux enfants de moins de 6 ans. Car en effet, nous allons percer le secret de la magie de Noël et dévoiler tous les secrets du Père Noël.
Vous allez découvrir ce soir la physique du Père Noël par un décryptage scientifique de ses exploits. Mais cette émission sera aussi une heure de découverte physique, psychologique et ludique, animée ce soir par Charlène Dombreville et François Travers. Bonsoir Charlène et bonsoir à tous.
Reportages, documentaires, interviews, expériences radiophoniques, entrez dans le Labo des Savoirs.
Au programme ce soir, il y a des réponses à nos questions d'enfance. Comment le Père Noël distribue-t-il ses cadeaux? Quel est le poids réel de sa hotte? Comment s'organise-t-il? Vous saurez tout sur ces mystères et sur bien d'autres encore.
Et Noël, c'est aussi offrir et recevoir, c'est déballer les cadeaux sous le sapin au matin du 25, c'est manger du chocolat dans une ambiance rythmée par des chants de Noël et de la douce musique.
Découvrez ce que disent des physiciens, des psychologues ou encore des spécialistes du chocolat sur les secrets qui font que Noël soit si magique.
Alors, embarquons tous ensemble pour une quête de la vérité. Et pour nous accompagner dans cette quête ce soir, nous accueillons dans nos studios à Prunes Jacques Martineau. Bonsoir à vous.
Bonsoir à tous.
Et bienvenue.
Et bonsoir, et joyeux Noël.
Et joyeux
à vous
Noël.
Aussi.
Vous êtes directeur de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules IN2P3. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre institut?
Bon, l'institut d'abord, c'est un institut du CNRS. Le mot-clé, c'est CNRS. Il y a une dizaine d'instituts au CNRS, dont l'IN2P3, dont l'objet est d'étudier la physique nucléaire, la physique des particules, des questions d'astrophysique et utiliser la physique des particules pour étudier l'univers et également de travailler sur toute l'instrumentation dont nous avons besoin pour faire nos expériences. Dernière chose, on essaye d'appliquer nos connaissances également sur les questions de cancer et sur les questions d'énergie.
Et que se cache-t-il alors derrière l'abréviation mystérieuse IN2P3?
Institut national de physique nucléaire et de physique des particules. Vous comptez le nombre d'initiales, il y a un I.
Un N,
IN2, P, non, 2N. Il y a national et nucléaire, et P3, physique et particules.
D'accord.
Pourrait-on dire que vos recherches ont comme but d'explorer les connexions entre l'infiniment petit et l'infiniment grand?
Non, oui, exactement, c'est ce que j'essayais de vous dire. Historiquement, l'IN2P3, c'était l'infiniment petit. Physique nucléaire et physique des particules. Mais on s'est rendu compte qu'un certain nombre de questions sur l'origine, l'existence, le comportement, les propriétés de l'univers, qui est donc l'infiniment grand, faisait intervenir des questions d'infiniment petit. Donc, il y a un genre de continuum, c'est-à-dire que la réponse à certaines questions qui concernent l'infiniment grand sont des questions qui se résolvent au niveau quantique, donc au niveau de l'infiniment petit, souvent.
Alors, concrètement aussi, quelles sont les questions majeures traitées à l'IN2P3?
Eh bien, on peut essayer d'en trouver une par chaque discipline. En physique nucléaire, c'est comprendre la structure du noyau et, par exemple, se demander s'il n'existe pas, c'est un petit peu attrayant, c'est un petit peu Noël aujourd'hui, des noyaux super lourds que la nature n'arriverait pas à fabriquer, mais que l'homme, par une ingénierie qui n'existe pas dans la nature, c'est-à-dire des collisions bien particulières, n'arrive pas à fabriquer. Pour la physique des particules, eh bien aujourd'hui c'est le boson de Higgs et l'origine de la masse qui domine. Pour la cosmologie, c'est la compréhension de ce qu'est, et on en est loin, la matière noire ou l'énergie noire, c'est-à-dire matière noire de la matière qui nous manque dans l'univers, l'énergie noire, ce qui explique que l'expansion se réaccélère, etc., etc.
Tout cela est absolument passionnant. Mais je dois vous avouer, Jacques Martineau, que si vous êtes notre invité ce soir, c'est parce que nous avons découvert que le Père Noël offrait une occasion inespérée de faire de la physique. De la physique classique, certes, mais aussi de la physique très actuelle. Est-ce que cela vous surprend?
Forcément un petit peu, mais c'est attrayant. Hein, et je vais voir ce que je vais apprendre dans les discussions que nous allons avoir.
Bah, nous allons en effet nous amuser, par exemple, à estimer la vitesse à laquelle le Père Noël doit se déplacer afin de livrer tous ses cadeaux en une seule nuit.
Alors écoutez bien. D'après nos estimations, le Père Noël doit visiter 108 millions de logis répartis sur 62 millions de kilomètres carrés. Si on admet que toutes les cheminées des maisons dans le monde sont réparties de façon homogène sur le territoire, il est facile de se convaincre que le Père Noël doit parcourir 91 millions de kilomètres en une nuit.
Oui, mais la veille de Noël, c'est une nuit spéciale et le parcours du Père Noël est réparti sur différents fuseaux horaires.
Alors, tu as tout à fait raison, François. La nuit du Père Noël dure 31 heures. Mais tout de même, nous avons calculé qu'il devait se déplacer à la vitesse faramineuse de 1630 km par seconde.
Jacques Martineau, que vous inspire une telle vitesse? Est-ce que cela paraît-il réaliste pour un attelage du type de celui du Père Noël?
Alors, pour un attelage de celui du Père Noël, rien n'est impossible. D'autant que cette vitesse est encore loin de la vitesse limite. Hein, formellement, on peut aller jusqu'à 300 000, je vous passe les décimales précises, mais 300 000 km par seconde, qui est la vitesse de la lumière et qui est aujourd'hui la vitesse limite. Donc, du point de vue des principes de physique, il n'y a pas de contradiction. Maintenant, comment on va faire pour que le Père Noël aille à cette vitesse, mais puisse également jeter, parce que c'est quand même le vrai objectif, les cadeaux dans les cheminées, il faut bien viser aussi. Mais ceci est une autre question. Non, je n'ai pas de problème avec cette vitesse-là, si ce n'est un problème technologique.
Alors, à quelle vitesse, justement, se déplacent les objets les plus rapides créés par l'homme? Les avions, les fusées, les satellites?
Alors, quand on parle des objets créés par l'homme, on parle même pas de la vitesse que vous avez mentionnée. Hein. On parle peut-être d'une quarantaine au maximum de kilomètres par seconde ou d'une dizaine de kilomètres par seconde, mais on ne va pas beaucoup plus loin. Hein. Et ça, ce sont les satellites lorsqu'ils sont en vitesse de croisière, je dirais même pas entre les étoiles du système solaire, vu qu'on n'a que très peu de satellites qui en sont sortis. Pour ceux qui n'est pas créé par l'homme, mais sur lequel l'homme a eu une influence, on pourrait penser aux accélérateurs de particules. Hein. Accélérateurs de particules, je ferai une parenthèse, ne les voyez pas toujours dans les grands centres comme le CERN où évidemment les équipes qui sont concernées travaillent, mais vous en avez dans les hôpitaux aussi. Hein. Lorsque vous vous faites soigner malheureusement certains cancers ou des choses comme ça, vous avez des accélérateurs de particules. Si je prends un accélérateur de particules dans un hôpital qui accélère des électrons à quelques... je vais employer un mot grossier que j'essaierai de plus employer par la suite, à quelques millions d'électronvolts, c'est-à-dire à 5 ou 6 fois quelque chose qui correspond à sa masse, eh bien la particule est déjà très relativiste et va très certainement à quelques 50 à 60% de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 200 000, voire plus, kilomètres par seconde. Donc ces vitesses-là, on les croise tous les jours, même dans des choses qu'on fabrique. Mais évidemment, la nature en fabrique aussi, et la multitude de rayons cosmiques qui vous tombent sur la tête pendant que je vous parle, ne vous poussez pas, il y en a à côté aussi, eh bien, vont à des vitesses qui sont la vitesse de la lumière. Maintenant, il y a la particule très particulière qu'est le grain de lumière. Le grain de lumière étant une particule de masse nulle, parce que le fait d'avoir une masse nulle n'est pas une spécificité en soi, on peut avoir n'importe quelle masse, il y en a qui ont des masses nulles, et bien quand on a une masse nulle, par définition, dans la théorie que Einstein nous a proposée, on va à la vitesse la plus grande possible. Or, il y a une vitesse limite, donc la vitesse la plus grande possible est cette vitesse limite, et c'est la vitesse de la lumière.
En 2011, on sait que les neutrinos de l'expérience Opéra ont été soupçonnés d'aller plus vite que la lumière. Est-ce que cela est-il vraiment envisageable pour le Père Noël?
Alors, deux choses. Pour nous, comme pour le Père Noël d'ailleurs que nous avons contacté sur le sujet, il n'y a qu'une seule vérité, l'expérience. Hein? Si le Père Noël arrive à faire sa tournée dans les conditions que vous avez précisées tout à l'heure... C'est un fait expérimental. Qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, c'est peut-être plus joli de ne pas le comprendre, mais qu'on ne le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, pour un physicien, la question reste la même. C'est un fait d'expérience. Même si on ne le comprend pas, il faut s'y conformer. Pour la vitesse de la lumière des neutrinos de l'expérience Opéra, on voyait un signal qui nous disait que ça allait plus vite. Ben, on a essayé de comprendre. D'abord, on a essayé. Alors, ce qui a été intéressant... Je vais peut-être prendre le problème à l'envers. Finalement, l'histoire a mal fini pour nous parce qu'on a trouvé une erreur expérimentale. On a trouvé qu'un câble avait été mal branché, je pourrais y revenir. Mais ce qui a été intéressant pour nous, c'est qu'on a essayé de remuer la théorie d'Einstein, la remuer dans tous les sens pour voir si elle pouvait s'accommoder d'une vitesse supraluminique. On n'y est pas arrivé. C'est une question intéressante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vitesse supraluminique, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, notre petit intellect ne sait pas comment vivre avec une vitesse supraluminique. Pour le moment, on a reculé la question, vu qu'on n'en a toujours pas vu, vu qu'on a trouvé un câble mal branché. Mais ceci, pour en revenir au début de la discussion concernant le Père Noël, même si on ne sait pas comment il le fait, il faut qu'on s'en accommode pour le moment. Il a raison, il y arrive, et d'ailleurs, Nous sommes tous contents qu'il y arrive.
Alors justement, par ailleurs, donc la distribution des cheminées, donc des cadeaux dans la cheminée sur le parcours du Père Noël n'est en réalité pas homogène. C'est-à-dire, dans les villes, les cheminées seront plus proches, à la campagne, plus éloignées. Voilà, pour optimiser son parcours, le Père Noël doit donc trouver le plus court chemin.
Ce problème s'appelle en mathématiques et en physique le problème du voyageur de commerce. Et s'il est simple à énoncer, figurez-vous que sa solution est inconnue. Pouvez-vous nous en dire deux mots ?
Bon, le problème du voyageur de commerce, c'est un problème intéressant. C'est ce qu'on appelle de l'optimisation. Lorsque vous avez un certain nombre d'étapes à parcourir, vous vous demandez quel est le meilleur sens, quelle est la meilleure ville. Alors, dans quel sens vous devez aller aux différents points ? La question est également de savoir qu'est-ce que vous voulez minimiser. Est-ce que vous voulez minimiser le temps ? Est-ce que vous voulez minimiser la distance ? Est-ce que vous voulez minimiser la consommation d'essence ? Est-ce que vous voulez minimiser le nombre de nuits d'hôtel ? Il peut y avoir différents paramètres à minimiser. Cette minimisation n'est pas un problème qui a effectivement une solution déterministe, mais vous en comprenez toute l'importance de la question qui est posée sur le plan industriel, le voyageur de commerce, mais sur le plan du postier qui délivre son courrier, sur le plan du ramassage scolaire, par exemple, les bus font les différentes étapes, dans quel sens, etc., etc. Ce problème de minimisation est un problème intéressant parce qu'il existe dans d'autres points de la physique, en termes de physique subatomique, la notion de minimisation est quelque chose d'important. En général, je vais vous dire quelque chose un petit peu d'approximatif, mais entre vous et moi, si je vous envoie un faisceau lumineux, un petit signal lumineux, la théorie quantique dit que le faisceau lumineux peut prendre tous les chemins possibles. Il peut passer largement à côté de vous et revenir vers vous, ou faire une ligne droite, c'est-à-dire faire un cercle ou faire une ligne droite entre nous deux. Et il y a un principe que l'on applique, que le chemin le plus probable est un chemin qui minimise, un mot grossier, excusez-moi, l'action. Minimiser l'action, c'est minimiser le temps qu'il y a entre vous et moi, et le chemin le plus probable est celui qui minimise. Et donc, pour nous, entre nous deux, c'est la ligne droite. Maintenant, s'il y avait une petite feuille de truc transparent, de plastique entre vous et moi, le chemin ne serait plus une ligne droite. Je vais continuer sur cette minimisation, vu que vous m'avez branché sur un sujet qui me fait venir les idées. Lorsque vous avez une rivière où il y a un certain courant, l'eau. Supposons que le courant soit nul. Vous êtes d'un côté, votre copine est de l'autre côté, ou bien le Père Noël est d'un côté, aujourd'hui on va le dire comme ça, et les rennes et son traîneau sont de l'autre côté, ben pour traverser, s'il n'y a pas de courant, il nage en ligne droite. S'il y a un courant et que vous nagez en ligne droite, vous allez rater votre cible. Vous voyez bien que là, vous allez nager un peu à contre-courant pour essayer d'arriver au point d'arrivée. On le fait tous naturellement quand on nage dans une rivière. Supposons qu'on nage encore dans une rivière. Eh bien, on minimise le temps pour aller de l'autre côté. Vous voyez bien que la minimisation n'est pas toujours une ligne droite, car s'il y a du courant, on est obligé de faire un cercle. Eh bien, le voyageur de commerce, le Père Noël, il doit également calculer, selon la position des cheminées, quel est le meilleur chemin possible. Et le meilleur chemin possible n'est pas le zigzag aléatoire, mais quelque chose dont vous avez raison de rappeler que la solution est quelquefois déterminée. Le cercle que le Père Noël doit faire dans l'eau pour traverser une rivière est parfaitement déterminé. La répartition de comment il doit visiter les cheminées est une chose plus compliquée.
Et bien alors, après un tel concentré de sciences dures, nous allons maintenant nous offrir une petite pause douceur. Car si Noël, c'est bien évidemment la dinde, le champagne, les cadeaux du Père Noël, c'est aussi bien le chocolat. Voilà, écoutons tout de suite un reportage de notre journaliste lituanienne, Odeta Vilkišiūtė.
Reportage, documentaire, interview, expérience radiophonique, entrée dans le Labo des Savoirs.
Ça sent le chocolat.
Bonjour monsieur.
Bonjour,
est-ce
madame.
Que vous pouvez expliquer ce que vous faites ici ?
Eh bien, je suis en train de faire un moule de Grand Père Noël. Et pour faire un moule, il faut plusieurs épaisseurs de chocolat, donc je travaille avec un pinceau pour étaler plusieurs épaisseurs de chocolat.
Gérard Desbottés, chocolatier nantais, façonne toute une série des Pères Noël au chaud chocolat. Devenu depuis l'année dernière un rendez-vous incontournable pour les chocolatiers nantais. Au chaud chocolat, on présente son travail et on montre son talent au public. Un détail qui a son importance, ce moment des chocolatiers se produit à l'occasion du salon de l'horticulture. Oui, car l'histoire du chocolat commence bien avec un arbre, le cacaoyer, l'arbre des dieux, venu du cœur chaud et humide de la grande forêt équatoriale d'Amérique du Sud. présentation des origines du chocolat par Philippe Castellagne, maître chocolatier.
Le cacaoyer est une plante qui est dans l'hémisphère des tropiques et qui a besoin beaucoup d'humidité, de chaleur. Étant à l'abri de grands arbres, et la floraison se fait et les récoltes de cacaoyers se font deux fois par an.
Effectivement, selon les pays, les climats et les régions géographiques, la récolte de cacao n'a pas lieu au même moment. Juste sous l'équateur, les cacaoyers produisent quasiment toute l'année. À l'état sauvage, le cacaoyer adulte mesure une dizaine de mètres, pas plus. C'est peu comparé aux 30, 40, 50 mètres des grands arbres de la forêt équatoriale qui l'entourent. Ces fleurs sont toutes petites, à peine 1 cm de long et de large. Et elles sont si tortueuses que seuls des très petits insectes et des fourmis minuscules peuvent y pénétrer pour y rechercher le nectar et participer ainsi à la pollinisation. 5 à 6 mois après sa fécondation, la minuscule fleur d'un centimètre donne l'un des plus gros fruits qui soit, la cabosse de cacao.
Donc à partir de la cabosse, quand elle est d'une couleur jaune ou brune, tout dépend des espèces, on ouvre la cabosse, vous en avez dans un bocal qui est là. La cabosse a 4 vaisseaux, 4 parallèles où il y aura des graines dedans. Et ces graines, on va les retirer. Elles seront avec de la pulpe mucilagineuse blanche qui va permettre de faire une fermentation, soit dans les feuilles de bananier, soit dans des caisses.
Ainsi, les graines de cacao subissent, sur les lieux même de la production, toute une série de transformations avant de prendre la forme de tablettes de chocolat. D'abord, la fermentation.
Ils vont faire fermenter entre 24 et 72 heures. Pour obtenir tous les parfums du cacao. Et après, on va pouvoir appeler ça fève de cacao.
Ici commencent les secrets de la chocolaterie. En arrivant dans les industries, les fèves sont d'abord nettoyées, puis torréfiées, brouillées et fondues pour produire la masse de cacao. Une pâte liquide appelée aussi pâte de cacao.
Le professionnel, il reçoit la pâte de cacao, c'est-à-dire la fève de cacao écrasée, sans sucre, sans rien, et après on travaille nos recettes à façon. Donc après, il suffit de, par exemple, pour une ganache, il suffit de rajouter de la crème ou du praliné, et on obtient un chocolat très fin, mais artisanal.
Comment fabriquer à partir de la pâte de cacao le chocolat noir, le chocolat au lait et le blanc?
Le chocolat noir, tout d'abord, c'est donc la pâte de cacao, c'est la fève qui est écrasée et on rajoute un petit peu de sucre pour lui développer parce que le sucre est un exhausteur de goût. Donc ça va permettre de développer certains arômes du chocolat qu'on n'a pas. La pâte de cacao est beaucoup trop forte pour être consommée à l'état brut.
Si on le mangeait dans cet état, on aurait plutôt l'impression de mastiquer du sable. Pour éviter ce désagrément, on va malaxer longuement et à chaud le mélange raffiné pour que les particules, frottant les unes contre les autres, s'émoussent et s'arrondissent comme les galets d'une rivière. C'est le conchage. De grosses machines brassent vigoureusement le chocolat dans les trois dimensions de l'espace et cela pendant 1 à 3 jours. C'est à ce moment-là que le chocolatier décide la sorte qu'il va fabriquer en ajoutant du sucre ou plus de beurre de cacao. Et cela n'est pas uniquement une question de goût.
Donc le chocolat au lait, c'est un mélange de pâte de cacao, de lait en poudre et du sucre. Donc là, avec ce mélange-là, on obtient du chocolat au lait. Et le chocolat blanc, c'est juste du beurre de cacao, donc c'est la matière grasse de la fève de cacao. Et on rajoute du lait en poudre et du sucre. Et là, on obtient le chocolat blanc.
Le meilleur des chocolats, c'est le chocolat noir. Alors bien entendu, après, il y a toutes sortes de pourcentages de cacao. Ça peut aller de 55, 60, nous on va de 61 à 85% de cacao. On a des grands crus qui viennent de partout, du Venezuela, des îles Caraïbes, de l'Équateur. On travaille au moins 12 sortes de chocolats différents.
Mais après le conchage, le chocolat n'est toujours pas terminé. Il lui reste une étape importante à franchir, la cristallisation du chocolat. Frédéric Flandrin.
Alors, faut savoir que Rebecca, ma BTM qui est là, là, pour le moment, elle est en train de tremper des oranges confites dans le chocolat. Mais c'est pas juste du chocolat qu'on fait fondre comme ça. Le chocolat, faut le mettre au point. Donc, faut savoir que dans le chocolat, il y a 3 phases à respecter. Il y a une première étape où on doit faire monter le chocolat à 45-50 degrés. Certains chocolats, ça peut aller jusqu'à 55 degrés. Ensuite, on le fait redescendre à 26-27 degrés. Pour ensuite le remonter à 31-32. C'est ce qu'on appelle le tablage, la cristallisation du chocolat.
Pourquoi faut-il cristalliser le chocolat?
On fait ça dans le but de pouvoir bien décoller son chocolat pour qu'il soit brillant, pour qu'il soit croquant. Parce qu'il y a 6 molécules de gras dans le chocolat. Si on ne respecte pas ces 3 phases-là, on n'arrive pas à décoller ces chocolats. Ou alors, ils blanchissent et ils ne sont pas beaux. Et ils restent mous. Donc, il faut absolument faire ces 3 phases-là. Une fois que ces 3 phases-là sont bien respectées, alors évidemment, on a des thermomètres à chocolat, on le met dans une tempéreuse qui est réglée à 31-32. Et après, on peut travailler le chocolat autant de temps qu'on veut. Voilà.
Enfin, le chocolat est coulé dans des moules ou façonné de différentes manières. Et pour le couper, l'outil préféré de Bruno Cacao, c'est la guitare.
C'est un petit appareil qui a été inventé pour détailler les chocolats en forme de soit carré ou rectangle. Donc ce sont des fils, c'est comme une guitare, mais sauf qu'ils ont une autre utilité que faire de la musique. Ils ont une utilité de faire des formes.
Sur le stand de Bruno Cacao trône une grande sculpture tout en chocolat. Le petit écureuil d'un dessin animé tient un gland dans ses pattes. Quelle importance dans le travail du chocolatier ont les sculptures de chocolat ?
Ah ben les sculptures, c'est le petit plaisir du chocolatier. Donc c'est pour changer un petit peu du travail de fabrication et puis de production. Donc on ne crée pas des saveurs, mais on crée des formes et des créations. C'est beaucoup dans la création visuelle. Donc il y a différentes techniques. Pour moi, ma technique, c'est j'utilise le chocolat à une température très précise. Donc il est un petit peu comme de la pâte à modeler. 2 degrés près, quand il commence à durcir, et ben là on peut le sculpter finement.
À vous maintenant de déguster. Procurez-vous 3 chocolats d'origine différente. Par exemple, un Venezuela, un Madagascar et un Caraïbe. Prêt ? Vous sentez les différences ? Quel est le meilleur ? Dites-vous bien, le meilleur chocolat, c'est celui que vous préférez.
Expérience sur les ondes, vous écoutez le Labo des Savoirs.
Alors donc, Jacques Martineau, on vient d'évoquer dans ce reportage tous les secrets de la fabrication du chocolat. Donc là, un aspect un peu plus ludique. Vous, quel est votre rapport au chocolat et surtout, quel est votre chocolat préféré ?
Alors, je ne dois pas être quelqu'un de très normal parce que j'aime le chocolat, tout ce qu'il y a de plus conventionnel. Certainement celui que les spécialistes considèrent le moins bien. J'aime le chocolat au lait, j'aime la praline, comme disent mes amis belges, parce que j'aime bien le chocolat belge.
Alors, on se ressemble alors sur ça. Moi aussi, c'est mon chocolat préféré. D'ailleurs, toi, c'est quoi, François, ton chocolat préféré ?
Oh, moi aussi. Je pense que tant que je peux manger du chocolat,
ça va
j'ai
bien.
Pas de préférence.
Alors, on s'est laissé dire que les physiciens donc, s'y connaissaient en saveur, puisqu'il paraît que les particules élémentaires, donc les quarks, étaient caractérisées par leur saveur. De quoi s'agit-il ?
Alors, c'est malheureusement pas de la saveur au sens où nous l'évoquions précédemment. Nous avons appelé les quarks, qui sont les briques élémentaires qui permettent de constituer la matière dont nous sommes formés, avec les électrons. Les gens peuvent s'interroger sur les protons et les neutrons, ils sont fabriqués de quarks. Eh bien, ces quarks ont différentes qualités. Le mot qualité est pris au sens de propriété, pas d'avantage. Le mot Eigenschaft en allemand, je dirais. Eh bien, il a fallu leur donner des noms, hein, à ces qualités. Il y en a 2 qui apparaissent, la couleur et la saveur. La couleur, vu que vous m'interrogez sur la saveur, je fais exprès de répondre à l'envers. La couleur, eh bien, il y a rouge, vert et bleu, mais ils ne sont absolument ni rouge, ni vert, ni bleu, ni même par quelque processus physique que ce soit, n'émettent ou n'émettraient ces couleurs-là. C'est plutôt une numérotation qu'on a donnée, et au lieu de les appeler 1, 2, 3, on les a appelés rouge, vert, bleu. Il y a une petite raison derrière, c'est rigolo, il faut qu'ils se mettent les 3 couleurs ensemble pour fabriquer du blanc, parce que la nature est blanche. C'est des mathématiques, ça, c'est des histoires de symétrie, dans des groupes de symétrie qui sont plus compliqués que la symétrie dans un miroir, mais des symétries à dimensions supplémentaires. La nature doit être blanche, donc doit être une superposition de rouge, vert, bleu, ou de rouge, anti-rouge. La saveur, parce que c'est ça que vous me demandiez, eh ben, c'est une autre qualité. La saveur, il y a des quarks. Et chaque quark, donc on va dire par exemple, nous sommes 3 dans le studio, chacun d'entre nous peut être rouge, vert ou bleu. C'est-à-dire chacun d'entre nous, je veux dire, Jacques, moi, je peux être soit un Jacques rouge, soit un Jacques vert, soit un Jacques bleu. Vous pouvez être rouge, vert ou bleu, etc. Si on se met tous les 3 ensemble pour faire un proton, eh ben, il faut qu'il y en ait un qui soit rouge, moi, vous que vous soyez vert, et vous que vous soyez bleu. Et dans ce cas-là, on fait un proton blanc et on est content. Maintenant, lorsque je dis vous, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui manque encore. Hein, j'ai dit qu'on a chacun une couleur, mais on a chacun une identité. Vous, vous êtes un quark up, vous, vous êtes un quark down, moi, je suis un quark étrange, par exemple. Et la saveur, si vous voulez, c'est le nom qu'on donne à ces quarks, parce qu'ils sont d'une famille différente, comme nous-mêmes, nous sommes d'une famille différente. Eh bien, il y a six quarks aujourd'hui. Il y a le quark up et down. Up pour dire celui d'en haut, down pour dire celui d'en bas, qui sont les quarks qui nous fabriquent. Ensuite, il y a une deuxième famille de quarks, les quarks étranges et charmés. Les mots deviennent presque plus jolis, l'étrangeté et le charme après. Et la troisième famille, la famille top et bottom, donc ça c'est très en haut et très en bas. Voilà ce que l'on appelle la saveur, ce sont des termes consacrés entre nous, mais qui ne reflètent pas autre chose qu'une terminologie d'identité.
On ne peut pas parler à proprement de goût.
Malheureusement, sauf le goût de la recherche.
Donc il n'y a pas des meilleures particules à d'autres.
Alors, il y a des meilleures particules. Si vous me branchez là-dessus, je vous réponds par la bande, si vous voulez. Il y a des meilleures particules parce qu'il y en a, les quarks up et les quarks down, qui nous fabriquent. Hein, ceux-là sont importants. Les autres sont des quarks éphémères, j'allais dire, qui existent, qui apparaissent lors de réactions, mais qui se désintègrent. Si notre vie était basée, qui se désintègre, c'est-à-dire qui meurt, hein, si vous voulez, en donnant d'autres débris, eh bien, si notre construction était basée sur ces autres quarks, eh bien, nous n'existerions tout simplement pas. Hein. Donc, il y a quand même quelques quarks qu'on préfère.
D'accord. Mais revenons maintenant à une question plus sérieuse de physique du Père Noël. Comment le Père Noël fait-il pour apporter autant de cadeaux ?
Alors en effet, admettons qu'il y ait 2 milliards d'enfants sur Terre et que 378 millions soient concernés par Noël. Un cadeau par enfant, 1 kilo par cadeau et un volume de 4 décimètres cubes. On parvient à une hotte de 1 milliard 512 000 mètres cubes et 378 000 tonnes.
Une paille ?
Ouais. Ok. Admettons que le Père Noël soit capable de mettre cette immense hotte sur son dos. Existe-t-il un matériau pour fabriquer cette hotte assez solide pour renfermer 378 000 tonnes de cadeaux ?
Alors, la question est de savoir une hotte pour quoi faire. Si c'est une hotte pour englober, mais englober dans un environnement où il n'y a pas de pesanteur et tout ça, un film de plastique va parfaitement bien. Si maintenant vous soumettez cette hotte à un champ de gravité ou à un champ d'accélération, un champ de gravité, c'est-à-dire vous le mettez autour d'une planète, sur Terre, ben ça pèse et vous comprenez très bien que le film de plastique ne résistera pas. Un champ d'accélération, eh bien c'est le Père Noël sur son traîneau. Ben on a vu tout à l'heure qu'il fallait qu'il fasse un grand voyage et il ne va pas le faire tranquillement. Il a un temps limité. L'accélération aussi, comme que quand vous êtes dans une voiture, eh ben vous colle le dos au siège, et si le siège ne résiste pas, donc si la paroi de la hotte ne résiste pas, ben elle se déchire et les cadeaux... Donc, vous comprenez bien, la notion de résistance est reliée aux contraintes auxquelles vous soumettez la hotte. Alors, quels sont les matériaux les plus résistants ? Peut-être que nous ne ferions pas une hotte en diamant, mais l'idée serait bonne. Hein. Le diamant est un matériau extrêmement résistant. Malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit un matériau à partir duquel on pourra faire une hotte, parce qu'on aura du mal à le tisser, tout simplement. Hein. Par contre, en effet, pour creuser des puits de pétrole, les têtes de creusement les plus résistantes que l'on trouve sont faites en diamant quand on est riche, en tungstène, et c'est pour cela que l'on ne se contente pas seulement de rechercher du diamant dans la nature, dans des mines, mais qu'il y a des diamants synthétiques qui sont fabriqués, qui sont d'une mocheté, d'une laideur, mais on s'en fiche, hein, vu que c'est la dureté qui nous a.
Par ailleurs, on peut peut-être imaginer que le Père Noël est capable de réduire le volume de sa hotte à masse constante. Ainsi, Jacques Martineau, quelle densité maximale peut-on donner à la matière ? Serait-ce la densité d'un trou noir, la densité d'un noyau atomique ou d'un électron ? Y a-t-il une densité limite ?
Non. Non. Alors, prenons les trois points que vous avez donnés et pour que je vous en explique ce que, aujourd'hui, nous comprenons de la notion de densité. Une densité, si vous vous rappelez vos cours, c'est une masse divisée par un volume. C'est des grammes par centimètre cube, des kilos par mètre cube, peu importe. Si on n'a pas de volume, on est embêté, on n'a plus qu'une masse. Si vous prenez l'électron, aujourd'hui l'électron est une particule élémentaire, les quarks aussi dont nous parlions tout à l'heure, on n'a pas besoin de leur imaginer un volume aujourd'hui. Tout se passe comme s'ils étaient ponctuels, mais massiques. Donc ils ont a priori une densité infinie. Hein? Mais ce sont des objets élémentaires. Ce sont des objets où on ne peut pas aller d'une façon ou d'une autre dans notre compréhension d'aujourd'hui. Une fois que je vous dise un petit mot sur notre compréhension d'aujourd'hui. Notre compréhension d'aujourd'hui, je fais la petite parenthèse et il faut que nos auditeurs le prennent comme un cadeau de Noël et n'hésitent pas à le répéter. En physique, rien n'est vrai. C'est seulement pas faux jusqu'à preuve du contraire. Hein? C'est-à-dire, aujourd'hui, lorsque je vous dis que l'électron est ponctuel, eh bien, peut-être que demain, quelqu'un trouvera qu'à l'intérieur de l'électron, il y a la théorie des cordes, il y a des choses comme ça. Aujourd'hui, tout se passe, c'est suffisant de dire qu'il est ponctuel. Mmh. Passons au noyau atomique, au proton. Là, nous avons des densités effectivement très très élevées. Ce sont les densités les plus élevées que l'on fabrique dans notre monde courant, c'est-à-dire dans un monde que l'on peut appréhender. Viennent les trous noirs. Je vais être obligé de vous ennuyer avec une notion qu'on appelle la brique et les colles. La colle, c'est quelque chose qui nous permet de coller les briques, et les briques, ça s'empile. Dans notre langage bizarre, on appelle les briques des fermions, et on appelle la colle des gluons, des bosons.
D'accord. Alors, mais qu'est-ce que c'est que cette colle, justement ?
Alors, la colle, c'est la force qu'il y a, et qui permet, ou le ciment, qui permet de coller les briques entre elles. Donc je vous dis, les briques des fermions, la colle des bosons. Les fermions ont une sale propriété qu'au même endroit, on ne peut en mettre qu'un. On ne peut pas en mettre deux. C'est une sale propriété, mais vachement intéressante. Ça veut dire qu'on est obligé de les empiler et qu'on fabrique des édifices. Si dès que j'en posais un, j'en mettais un par-dessus et qu'ils se mélangeaient, je ne ferai jamais d'empilement. Vous me suivez ? La colle, par contre, elle a les bonnes propriétés de la colle. Si je mets de la colle et que je rajoute de la colle, elle se met au même endroit. On va prendre un exemple. Lorsque je fais justement des protons, vous me parliez densité, c'est fait à partir de quarks. Les quarks qui sont à l'intérieur du proton sont obligés d'être empilés, c'est-à-dire d'être l'un à côté de l'autre et pas l'un dans l'autre, si bien qu'il y a une certaine taille, et qu'au bout d'un moment ils se repoussent, même s'il y a une colle qui les colle, si on voulait les approcher très fortement les uns des autres, ils se repoussent, si bien qu'il y a une taille minimale, sinon la taille serait nulle. Pour la colle, par exemple, la colle la plus habituelle du point de vue de la physique des particules élémentaires que vous pouvez rencontrer, c'est la lumière. La lumière est la colle de l'interaction électromagnétique. C'est quoi l'interaction électromagnétique ? Lorsque vous vous peignez et que le peigne attire vos cheveux, c'est de l'interaction électromagnétique, il y a échange de quelques photons. C'est de la lumière qu'on ne voit pas, si vous voulez. Lorsque vous approchez un aimant d'une aiguille, il y a une force d'attraction, échange de photons, de nouveau. Eh bien, cette colle lumineuse, la lumière ou les photons, si je ne veux pas me faire attraper par mes collègues, eh bien, plus vous en mettez ensemble, ils ont encore plus envie d'être ensemble. C'est l'effet laser. J'émets un photon, s'il y en a un deuxième qui est exactement pareil, plutôt que de dire, comme pour les fermions, j'ai pas le droit de me mettre avec vous, au contraire, il joint la partie. Et s'il y en a un troisième, c'est encore plus facile. Si bien que le laser, c'est une armée de photons, exactement tous les mêmes, qui ont exactement les mêmes propriétés et qui donnent de la lumière intense. S'il n'avait pas cette propriété-là, si la colle n'avait pas cette propriété-là, eh bien, il n'y aurait pas de laser. Il n'y aurait plus de caisse enregistreuse, ce serait aussi bien.
Alors donc ce soir, dans cette émission de Noël, on parle donc de la physique et de la science du Père Noël, mais on parle aussi de la psychologie, voilà, et donc des cadeaux, puisque c'est aussi un événement important de la nuit de Noël. Alors imaginons que l'on renonce tout simplement aux cadeaux, et bien justement, la psychologie nous enseigne que c'est presque impossible. Guillaume Mézières et François Travers ont enquêté pour nous.
Le Labo des Savoirs, émission activatrice de synapses.
Noël représente beaucoup de choses. Enfin, c'est surtout une histoire de cadeaux, vous n'avez qu'à demander aux enfants qui les attendent. Le plaisir de Noël, c'est celui d'une tradition familiale, festive. C'est bien sûr le bonheur, ce bonheur immense de recevoir des cadeaux, mais c'est peut-être un bonheur encore plus grand, celui de donner. Et nous avons interrogé Lara Aknin, une psychologue canadienne, qui a récemment publié les résultats d'une étude sur le don dans les revues Science et Bloswell.
J'ai toujours été intéressée par la question des émotions. Je pense que l'expérience quotidienne des gens, les émotions que nous ressentons, apportent ces couleurs à notre existence.
L'équipe de Lara Aknin a réalisé cette étude sur un groupe de 20 enfants entre 22 et 24 mois. Chaque enfant a été placé par les chercheurs dans la situation de recevoir de délicieuses sucreries, mais aussi dans celle de les donner. Lara Aknin et ses collègues ont filmé ces enfants et étudié les expressions qui se présentaient sur leur visage lorsqu'il leur était demandé d'offrir leur friandise. Lara Aknin.
On a emmené les enfants au laboratoire avec leurs parents et on les a assis à une table. Ensuite, un de nos assistants a ramené une marionnette qu'il a présentée à l'enfant et on a fait en sorte que l'enfant et la marionnette soient dans la situation de manger des friandises. Et notre assistant leur a donné un bol de sucreries. Donc, le chercheur donne 8 sucreries à l'enfant et il lui dit « Est-ce que tu voudrais partager un de tes bonbons avec la marionnette ?» Alors si l'enfant répond oui, il prend un bonbon et il pose dans le bol de la marionnette qu'on fait alors se pencher sur le bol avec un grand mmm. Et là le chercheur dit ensuite est-ce que tu voudrais donner un de mes bonbons à la marionnette? Et là l'enfant s'engage dans la même action de don. Il donne le même bonbon à la même marionnette exactement de la même manière. Il donne juste un bonbon qui n'est pas le sien. Finalement, on incite l'enfant à regarder le chercheur donner une friandise à la marionnette. Pendant toute la durée de cette situation, qui dure environ 5 minutes, on filme les expressions des enfants. On a une caméra en gros pointée sur leur visage et on évalue dans quelle mesure ils sourient. Ce que l'on découvre, c'est que les enfants sourient de façon beaucoup plus significative lorsqu'ils donnent une sucrerie à la marionnette que lorsqu'ils en reçoivent une pour eux-mêmes. Donc ce qui était vraiment génial, c'était que les enfants étaient manifestement beaucoup plus heureux ou alors souriaient beaucoup plus quand ils donnaient leur propre bonbon à la marionnette plutôt qu'en donnant le même bonbon appartenant au chercheur. Il semble qu'il existe une sorte de récompense émotionnelle dans le fait de donner particulièrement lorsque cela implique un coût pour soi-même.
Donner est une récompense et la valeur de cette récompense augmente à mesure du coût que représente ce don pour nous-mêmes. Plus le don est grand, plus fort sera le sentiment de bonheur qu'il provoque. Noël, la charité, les cadeaux sont des traditions, des politesses, en fait, des constructions sociales. Le don y est ritualisé et les individus sont éduqués à réagir comme il se doit, par un sourire, des marques d'affection ou de joie. Mais le fait de donner ou de recevoir est bien plus qu'un comportement social. Donner dépasse le cadre de l'éducation aux bonnes manières. C'est Marcel Mauss, le père de l'anthropologie française, qui a théorisé le don et le contre-don comme un fait social total. Bien plus qu'une chose marchande, religieuse, traditionnelle, un fait social total est un fait où tout se retrouve. Toutes les institutions, tous les domaines de la vie sociale. Et si Noël n'est qu'une simple fête religieuse, une tradition familiale ou un rituel consumériste et publicitaire, le fait de donner, de recevoir, de rendre est, pour Marcel Mauss, la base même du lien social, de ce qui nous unit. Donner serait alors la source d'un bonheur. Donner est une récompense pour celui qui donne. C'est bien connu dans le cas de la charité, qui est aussi une forme d'autogratification. Mais qu'en est-il chez un enfant de 22 mois? Comment peut-il savoir ce que donner signifie? Car chez ces 20 bambins, donner semble être une source de grande joie. Lara Aknin.
Nous avons pensé que c'était particulièrement intéressant car beaucoup de gens entretiennent le préjugé que les enfants sont à la fois égoïstes et avides. Mais ce que l'on voyait ici, c'était tout à fait le contraire. Ce que les enfants étaient en fait plus heureux en donnant, en se séparant de leurs bonbons, plutôt qu'en recevant. On en a conclu avec ces découvertes que les humains, dès leur plus jeune âge, peuvent avoir ces récompenses émotionnelles en donnant. Donc ce n'est pas quelque chose inculqué par nos parents, mais c'est bien une chose que les êtres humains ont. C'est une conduite basique ancrée en nous qui nous fait nous sentir mieux lorsque nous donnons.
Conclusion, le don préexiste à la socialisation. C'est-à-dire qu'avant que l'enfant puisse subir l'influence de ses parents, avant la mise en place d'un processus d'éducation, donner est déjà un plaisir. Cette valeur émotive sera alors un principe immanent, c'est-à-dire inséparable de l'individu présent en lui, le constituant de manière interne. De fait, ce principe du don s'exprime de manière récurrente dans toutes les sociétés humaines, tout en prenant des formes différentes. Prenons un exemple bien connu en anthropologie, le potlatched. Cette coutume existait chez les Indiens de la côte ouest des États-Unis et chez certaines ethnies du Pacifique. Le potlatched est un échange non marchand, un système de dons et de contre-dons, où des objets sont donnés en fonction de l'importance que l'on leur accorde. Plus l'objet a de la valeur, plus grand sera le plaisir de le donner. Celui qui le reçoit répliquera par un autre don, et le potlatch est parfois considéré sous l'angle d'une compétition de cadeaux. Un autre fait social a bouleversé les systèmes de dons et de contre-dons. Il s'agit de l'argent. L'argent donne une valeur à tout et peut tout transformer en marchandise. Et pourtant, l'argent se donne et peut constituer, comme il est fréquent au moment de Noël, un intermédiaire entre celui qui donne et celui qui reçoit un cadeau. Sans parler du célèbre commerce de la revente des cadeaux passé le 25 décembre. L'argent est aussi l'objet d'une autre étude réalisée par l'équipe de Lara Aknin. S'interrogeant toujours sur la récompense émotive que procure le fait de donner, son équipe s'est penchée sur l'argent. Alors, fait-il le bonheur ?
La relation entre l'argent et le bonheur est plus faible que ce que la plupart des gens supposent. Les gens pensent que gagner beaucoup plus d'argent se traduit par beaucoup plus de bonheur. Mais en fait, il s'avère que, au moins aux États-Unis, une fois que vous avez gagné une certaine somme d'argent, tout ce qui viendra en plus ne mènera pas plus loin dans la voie du bonheur. On a donc défendu dans une publication qui date de 2008 que pour comprendre la relation entre l'argent et le bonheur, il faudrait mieux regarder non pas la somme d'argent que les gens peuvent gagner, mais ce que ces gens choisissent d'en faire. On a donc évalué ce que ce choix de dépenser généreusement son argent, plutôt que de l'accumuler, pouvait avoir comme bénéfice émotionnel. Et ce que l'on a trouvé, c'est que dépenser ne serait-ce qu'un peu d'argent, un 5 ou 20 dollars, conduisait à un plus grand degré de bonheur que de dépenser de l'argent pour soi-même. Il y a ici une relation intéressante entre l'argent et le bonheur. Avoir plus d'argent tend à être associé avec un plus grand degré de bonheur. Mais en fait, cette relation n'est pas si forte. Les gens perçoivent cette relation plus forte qu'elle n'est réellement. Une des raisons à cela se trouve peut-être dans le fait que les gens ne dépensent pas réellement leur argent d'une façon qui les rendrait plus heureux. Et donc, ce que cette recherche suggère, c'est qu'il y a des façons d'utiliser son argent de manière à augmenter son bonheur. L'argent ne peut pas acheter le bonheur. Mais la bonne façon pour faire ça, c'est d'utiliser l'argent en achetant des choses pour les autres ou en faisant des choses pour les autres plutôt qu'en les faisant pour soi.
Le dramaturge Sacha Guitry a dit « L'argent n'a de valeur que lorsqu'il sort de votre poche, il n'en a pas quand il y rentre. » Et pour reprendre les mots de Lara Aknin, si l'argent peut rendre heureux, c'est seulement en fonction de la manière dont il est dépensé. L'avidité est un autre fait social qui, il faut l'espérer, n'a pas cette dimension totale que Marcel Mauss prêtait aux dons. Ce qui motive certains à augmenter leur fortune au-delà du raisonnable sort du cadre de l'étude réalisée par l'équipe de Lara Aknin. Mais en revanche, une chose est claire, donner est une source de plaisir que l'argent seul ne peut offrir.
Alors comme quoi, la valeur d'un cadeau tient plus donc au bonheur procuré de l'offrir ou de le recevoir qu'à son coût. Je rappelle que nous sommes ce soir de Noël en compagnie de Jacques Martineau, directeur de l'Institut IN2P3. Alors, est-ce que vous avez également, vous, en retour à ce reportage, votre avis sur le rapport entre l'argent et le bonheur ?
Bon, un avis tout à fait personnel. Bon, qui est effectivement ce que je pense qui n'a rien d'original et qui a été très bien formulé par Michel Serres. L'argent, quand on n'en a pas assez, on y pense trop, on en veut plus, quand on en a réellement et objectivement pas assez. C'est-à-dire qu'on n'en a pas assez pour vivre, qu'on n'en a pas assez pour payer son loyer, qu'on n'en a pas assez pour faire des cadeaux. Là, il y a un problème, effectivement, et je comprends un souci. Quand on en a trop, quelquefois, ça devient une maladie parce qu'on en veut, on n'en a jamais trop, on en veut toujours plus. Résumé de façon un peu lapidaire, l'argent, il faut en avoir juste assez pour ne plus y penser. C'est-à-dire, si on n'en a pas assez, en avoir suffisamment pour que ça ne devienne pas un souci d'angoisse existentielle journalière, mais que ça ne devienne pas ensuite une obnubilation d'être dans le classement des plus grandes richesses du monde. Non, je ne pense pas que l'argent soit le bonheur intrinsèque, c'est un outil, je pense qu'il y a plein d'autres bonheurs. L'argent est également pour moi un outil assez malsain, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas y penser, de comparaison. En ai-je plus ? Gagne ? Est-ce que je gagne plus que toi ? Est-ce que ma maison est plus jolie que la tienne, ce qui est encore de l'argent ? Alors que la vraie question, c'est de savoir est-ce que ma maison me plaît ? Je me fiche qu'elle soit plus jolie que celle du voisin. Est-ce que j'y suis bien ? Est-ce que ma vie est agréable ? Je trouve que l'argent, de ce point de vue-là, devient une fin en soi, alors que ça devrait être la fin d'autre chose, etc.
Mais est-ce que l'argent, le bonheur, le rapport entre les deux, est-ce que ce sont des notions que les physiciens pourraient avoir envie de mettre en équation ?
Difficile, pas les physiciens. Je pense que les physiciens vous répondraient d'abord, les chercheurs de sciences lourdes et en particulier de ces sciences que l'on appelle, avec un terme quelquefois un peu péjoratif, la big science. Elle coûte cher, cette science. Et très souvent, on est amené à se demander, pas à la mettre en équation, mais à la mettre pour le moins en perspective, par rapport à certains autres défis ou autres urgences de l'humanité, le progrès des connaissances qui est évidemment, là j'enfonce des portes ouvertes qui quelquefois sont de l'auto-justification de dire que c'est une spécificité que de la nature humaine, que de faire progresser les connaissances, etc., etc., qu'il ne faut pas arrêter, que ça a été un moteur. Oui, ok, quand les autres meurent de faim, c'est vrai que cette spécificité est intéressante, mais à un moment donné, pour le moins s'interroger sur la priorité qu'il faut donner, sur l'urgence qu'il faut accorder à telle ou telle discipline, n'est peut-être pas une mise en équation, mais un questionnement qui peut être posé. Et se rappeler aussi que même si la recherche fondamentale, c'est-à-dire la recherche dont on a du mal à voir des retombées très immédiates, telles que le boson de Higgs, si vous voulez, eh bien, reste des moteurs technologiques, malgré tout. Donc, il y a toujours le pour et le contre, et que lorsque les lasers ont été découverts, au moment, un peu avant la Seconde Guerre mondiale, la théorie a été faite, ben mon Dieu, de là à penser qu'il y aurait des lasers dans toutes les caisses enregistreuses de nos supermarchés préférés. Non, on le c'est pas ça. Donc, que la recherche soit effectivement un moteur d'amélioration sociale, industrielle et technologique est vrai, mais me demander aujourd'hui, la recherche fondamentale doit en 3 mois résoudre des problèmes aussi cruciaux que des questions de difficultés technologiques que nous rencontrons en ce moment. Non, j'aime dire que la recherche fondamentale travaille surtout pour la prochaine crise économique que celle-là, malheureusement, il fallait y travailler il y a 10 ans. Hein, et on l'a fait. La crise économique n'est pas qu'une question de recherche et de choses comme ça. Je veux dire, il y a des... Nous parlions de l'argent tout à l'heure, le comportement humain quant à l'argent, quant à ces bulles financières, dans cette envie d'en avoir toujours plus, je pense que c'est malsain, mais n'est-il pas lié à la nature humaine ?
Avant de poursuivre en musique, une dernière question sur justement cette place à la magie et au merveilleux dans la physique. Est-ce qu'elle y est, cette place ?
Oui, oui et non, parce que c'est un merveilleux peut-être auquel tout le monde n'est pas sensible. Mais une chose est certaine, c'est assez rare, je vais vous répondre par la bande d'une façon pas jolie, mais vous m'avez branché sur un sujet avec l'argent, je suis assez fier en tant que chercheur de ne pas voir, et pourtant nous le devrions, les chercheurs manifester dans la rue pour l'augmentation de leur salaire. Ils parlent d'augmentation de salaire de leurs thésards, de leurs étudiants. Ils parlent d'augmentation des moyens financiers dont ils pourraient avoir besoin, au bémol près de ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il peut y avoir d'autres priorités. Mais rarement pour être tout en haut des classements, des fortunes et des choses comme ça, car il y a quand même, pour faire de la recherche, une part très importante de passion, de curiosité, d'envie de comprendre. Peut-être c'est très égoïste ce que je suis en train de dire. Ensuite, d'envie de faire comprendre, mais il y a une partie du moteur qui est l'attrait personnel que le chercheur peut avoir pour ce merveilleux qu'est l'inconnu et l'envie de soulever un tout petit peu le voile à un moment donné pour voir quelle explication on peut y donner. Oui, il y a une part de merveilleux pour moi dans la recherche. Oui, je peux comprendre que tout le monde ne soit pas d'accord avec ce que je dis.
Et donc, est-ce que le Père Noël peut en faire partie, alors, de la physique ?
Mais bien sûr. Bien sûr, heureusement. Heureusement, le Père Noël nous apporte des cadeaux aux scientifiques. Là, je réponds en tant que physicien, mais vous savez, quand on trouve quelque chose en physique, ou quand on prédit quelque chose, donc selon qu'on soit expérimentateur ou théoricien, donc si un théoricien me l'a prédit, je vais aller le vérifier. Si je trouve quelque chose, un théoricien va essayer de me l'expliquer. Mais en général, très souvent, moins en le vérifiant, première hypothèse, mais je trouve autre chose, qui n'était pas la vérification, mais on trouve un petit peu plus. De même, le théoricien, pour expliquer quelque chose qu'on a trouvé, son explication devient un petit peu plus large, un petit peu plus large. Et donc, à chaque fois que l'on progresse, il y a... Le Père Noël, il est là, hein. Il y a un petit cadeau, il y a un petit plus. Heureusement pour nous, d'ailleurs, que le Père Noël nous fait ce cadeau, parce que sinon, la science s'arrêterait. Hein, si vous me demandez quelle est la prochaine découverte qui va être faite, vous êtes en train de me demander quel est le cadeau que va me donner le Père Noël. Si on connaissait tous les cadeaux du Père Noël, on ne fait que des lettres au Père Noël. On ne sait pas ce qu'il nous apporte et quelquefois il nous apporte des choses dans lesquelles la surprise est le vrai moteur de l'émerveillement.
Oui, je crois aussi que voilà, les possibilités de cadeaux du Père Noël sont infinies, c'est vrai. On poursuit en musique et on revient juste après sur Prune, ne bougez pas.
Hung their stockings and are being shooed off to bed.
Du Labo des Savoirs, joyeux Noël à tous. On poursuit notre émission spéciale La physique du Père Noël avec Jacques Martineau, notre invité. Je rappelle que vous êtes physicien et directeur de l'Institut IN2P3.
Replongeons immédiatement dans le vif de notre sujet en évoquant le bilan énergétique du Père Noël. En effet, s'il doit voyager à 1630 km par seconde, compte tenu du fait qu'il doit s'arrêter au-dessus de chaque cheminée avant de redémarrer, on peut estimer que l'accélération à communiquer à son traîneau à chaque démarrage est d'environ 6,8 milliards de mètres par seconde au carré. Soit environ 700 millions de fois l'accélération de la pesanteur, et idem pour la décélération. Jacques Martineau, est-ce qu'un tel cycle accélération-décélération vous semble-t-il envisageable pour un système matériel ?
La réponse est évidemment, aujourd'hui, non. Je crois pouvoir répondre qu'on ne sait pas fabriquer de telles accélérations ou de telles décélérations. Maintenant, une telle accélération engendre un certain nombre de forces, ce qui est compliqué de savoir si les matériaux peuvent ou ne peuvent pas résister à de tels cycles d'accélération ou de décélération est une chose beaucoup plus compliquée. Car si l'accélération est homogène à l'intérieur d'un matériau, les forces qui agissent dessus sont équiréparties, je dirais il n'y a pas dislocation du matériau. Si l'accélération est un petit peu plus forte en un point ou en un autre, il peut y avoir des effets différentiels et les structures des matériaux n'y résisteraient pas. L'exemple le plus typique, et je reviens à une cheminée bien particulière que fort heureusement le Père Noël ne visite pas, qui sont les trous noirs. Quand on s'approche d'un trou noir, les effets de gravité sont tels que entre deux points, là je vous dis qui seraient distants d'un mètre, hein, c'est-à-dire notre tête et nos pieds, les effets gravitationnels, donc d'accélération gravitationnelle, seraient tels qu'on serait écartelé, qu'on serait déchiqueté. À supposer que l'on arrive, rien que du point de vue de la force. Il y a plein d'autres choses bien compliquées près des trous noirs, mais vous voyez, quelquefois, les effets de dimension comme ça sont des choses très compliquées. Rappelez que le Père Noël a beaucoup de chance quand même de travailler l'hiver, c'est beaucoup plus joli, les traîneaux, la neige. L'été, ça peut être très compliqué lorsqu'il y a des orages. Vous savez que lorsque vous vous promenez dans un pré, dans un champ, qu'il y a un orage, pour ne pas être frappé par la foudre, il y a quelques règles à appliquer et à ne pas appliquer. Ne pas aller sous un arbre de préférence, donc ne pas rester debout. Donc ne pas rester debout pourrait vouloir dire s'allonger. Non, il ne faut pas s'allonger, justement. Hein, car si, et ça c'est ce qui arrive à certaines vaches qui sont debout, hein, rien que la distance entre leurs pattes avant et leurs pattes arrière est telle que si la foudre tombe à proximité, sans tomber sur la vache, sans la foudroyer, les effets de voltage dans le sol entre les pieds avant et les pieds, les pattes avant et les pattes arrière sont tels que la vache est électrocutée. Si nous nous allongions sur le sol, nous serions électrocutés pour la même raison, parce que la distance entre notre tête et nos pieds est à peu près la même que pour la vache. Donc il ne faut pas s'allonger, donc il ne faut pas rester debout, donc il faut s'accroupir. Hein. Il faut s'accroupir et c'est pas évident. Hein. C'est, donc vous voyez, il y a des aspects dimensionnels, vous avez raison de le citer, dans les accélérations, dans les forces, qui sont pas toujours intuitifs.
Alors est-ce que la fusée spatiale, est-ce qu'on fait de mieux en matière d'accélération ?
Non, en matière d'accélération... Je le dirais pas comme ça. En matière d'accélération, lorsqu'on accélère des particules, mais ça, une fois qu'on a accéléré les particules, ça ne nous fait. J'entends votre question. Hein, on fait mieux en accélérant des particules, mais vous êtes en train de me proposer un voyage intersidéral. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait de mieux, mais ce sont des accélérations minimales par rapport à ce que vous avez mentionné. Alors, on pourrait accélérer plus. On pourrait accélérer en permanence. Là, ça deviendrait intéressant. Technologiquement, on a du mal, mais il faut savoir que l'idée d'accélérer n'est pas une idée intéressante en soi. L'idée d'accélérer, c'est d'augmenter notre vitesse. Hein? Si on augmente notre vitesse et que notre vitesse atteint des régimes qui se rapprochent de la vitesse de la lumière, même si vous faites les calculs, le temps que nous mettrions pour atteindre le premier système solaire qui ne soit pas le nôtre, serait des temps qui, pour un observateur qui resterait sur Terre, votre frère, votre ami qui resterait sur Terre pendant que vous voyageriez, serait tel que lui serait mort bien avant que vous soyez arrivé, donc revenu. Ça ne rendrait pas le voyage plus rapide. Par contre, pour vous qui voyagez, qui voyageriez à des vitesses très élevées qu'on ne peut atteindre que si on a un certain mécanisme d'accélération, eh bien, le temps serait ralenti. Parce que plus vous allez vite, c'est-à-dire ce qui pourrait paraître, je n'ai pas calculé, je ne pense pas à un trajet particulier, mais ce qui pourrait paraître 500 000 ans pour le collègue observateur qui est resté sur Terre, pour vous, n'aurait pu durer que 10 ans. Hein. C'est des histoires de relativité restreinte, un petit peu contre-intuitive, la physique devient contre-intuitive. Donc le fait d'accélérer peut être intéressant pour atteindre des hautes vitesses, mais accélérer veut dire avoir de l'énergie. On n'accélère pas comme ça. Lorsque je suis sur un vélo, dans une descente, je vais à une certaine vitesse, si vous voulez, je pédale pas. Bon, dans une descente, ma vitesse augmente, mais on va dire qu'elle n'augmente pas. Si je veux l'augmenter, mais je pédale, hein. Et si je n'ai pas assez mangé, pédaler me fatigue et ça ne marche pas. Donc pour accélérer ma fusée, il me faut du carburant quelque part. Or, si je veux accélérer en permanence, il me faut beaucoup de carburant. Donc il me faut également utiliser de ce carburant pour transporter le carburant. Vous voyez, les choses deviennent vite très compliquées et aujourd'hui, je n'ai aucune solution technologique, même si sur de tout petits dispositifs, des accélérations plasma existent, mais ce ne sont pas des choses que, allez, je le parie, même si je suis vieux, que même vous, vous verrez.
Voilà, donc on termine donc sur ce que vous venez de nous apprendre, Jacques Martineau. D'ailleurs, moi, je fais juste une petite anecdote. Vous avez parlé de voyage spatial et c'est en prévision, j'ai vu ça dans un reportage aux États-Unis, qu'en 2023, on peut, voilà, pour une somme faramineuse, peut-être aller faire un voyage sur la Lune.
J'ai entendu que la somme... Ah non, sur la Lune. Moi, j'ai entendu seulement une orbite. Enfin,
eh bien non, maintenant ça a été encore prolongé sur la Lune. Et d'ailleurs, je voulais dire, ce serait peut-être mon cadeau. J'aimerais bien ça.
Eh bien, le Père Noël vous l'apportera certainement, si vous êtes gentil.
Si je suis gentil, voilà. Donc on poursuit maintenant avec le rendez-vous des curieux.
Le rendez-vous des curieux.
Pour en savoir plus sur tous ces mystères de la physique de Noël, vous pouvez donc vous rendre sur le site l'internaute.fr et faire votre recherche donc sur la physique du Père Noël. Vous retrouverez également des informations sur le site de l'Institut IN2P3. Voilà, et donc est-ce qu'on peut trouver des informations pour le grand public?
Il y a des informations grand public. Je vais m'occuper dès demain ou après-demain de faire la rubrique Père Noël. Mais ce sont des informations grand public, mais qui quelquefois sont un petit peu arides, je vous le dis. Néanmoins, il y a moyen de poser des questions, il y a moyen de nous contacter et on est toujours très heureux à répondre à ce à quoi on est capable de répondre.
Merci beaucoup Jacques Martineau. Merci à vous, donc, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Voilà, c'était l'émission Noël, donc joyeux Noël à tous. Je rappelle, Jacques Martineau, que vous êtes directeur de l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules IN2P3.
Je vous remercie d'abord et je salue le courage de ceux qui ont écouté cette émission. Un jour de Noël, un soir de Noël, faire de la physique, bravo, bravo, bravo à tous. Vous méritez de ce point de vue-là certainement un double cadeau. J'espère que très sincèrement, Noël vous apportera toutes vos satisfactions, que vous aurez tous les cadeaux dont vous rêvez et que l'année 2013 sera pour nous tous charmante et agréable.
Merci beaucoup Jacques Martineau. Donc dans cette émission, nous avons abordé la physique du Père Noël et la physique actuelle des particules avec ses mystères et ses secrets. Joyeux Noël à tous, rendez-vous bientôt à nouveau au Labo des Savoirs, même heure et même endroit.
Retrouvez l'équipe du Labo des Savoirs les mardis et mercredis de 19h à 20h sur le 92 FM et le www.frune.net.
C'était une émission préparée par Odetta Vilquichouté et Mathieu Brousson, animée par Charlène d'Ambreville et François Travers, à la réalisation et à la rédaction en chef du Labo des Savoirs. Et un grand merci, Gabriel S. Fernandez. À tous, très bonne soirée, à bientôt, joyeux Noël. Merci. Et n'oubliez pas, Noël n'est pas un jour ni une saison, c'est un état d'esprit.
Radio G.